Bonsoir et bienvenue aux habitants de Bukavu dans cette salle La Concordia. La province de Kivu connaît depuis quelques jours ses nouveaux dirigeants, à savoir les gouverneurs et son vice-gouverneur issus des récentes élections. Le Kivu est l'une des provinces les plus instables de la RDC à cause des crises interinstitutionnelles. Plusieurs gouverneurs sont succédés à la tête de cette province sans pour autant mettre fin, n'est-ce pas, à ces conflits. Par conséquent, le Kivu peine à se développer malgré ses énormes potentialités. L'élection des nouvelles autorités suscite donc de l'espoir dans l'opinion publique. Quels défis attendent les dirigeants nouvellement élus au Sud Kivu? C'est l'objet de cette spéciale émission Dialogue entre Congolais sur la province du Sud Kivu qui se produit à Bukavu avec la population de la ville de Bukavu. Est-ce que les filles et garçons Béké sont ici? Est-ce que Bukavu est vivant? Nous avons également dans cette émission, en fait on devait avoir le nouveau vice-gouverneur, M. Jean-Jacques Elakano, mais pour des raisons des lignes téléphoniques, on n'a pas pu l'avoir parce qu'il n'est pas présent physiquement ici au Sud Kivu, il est à Kinshasa. Et donc à la place, heureusement que nous avons les porte-parole du gouvernement provincial, M. Tipson Idumbo, qui est porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu. Il assume l'intérim du ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Bonsoir, monsieur le ministre Tipson Idumbo.
Bonsoir, Guy Maté. Je salue les auditeurs de la radio Okapi. Je salue également les co-débatteurs que vous avez daigné associer à ce débat.
Merci. Nous avons également monsieur Sami Takimbula. Il est vice-président du bureau de coordination de la société civile du site Kivu. Bonsoir, monsieur Sami Takimbula.
Bonsoir, monsieur Guy Maté. Nous saluons aussi tous les co-débatteurs qui sont à côté de nous. Nous saluons aussi tous les auditeurs de la radio Okapi.
Nous avons également M. l'abbé Justin Kounzi, il est directeur de la commission diocésaine Justice et Paix CDJP de la diocèse de Bukavu. Bonsoir M. l'abbé Justin Kounzi.
Bonsoir M. Guy Maté. Bonsoir à tous les podémateurs, à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Monsieur le ministre Tipson Idumbo, on rappelle que vous êtes le porte-parole du gouvernement provincial. Vous assumez actuellement l'intérim du ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. D'abord, est-ce qu'on peut parler des acquis de votre gouvernement, le gouvernement Ngouabigé? Quels sont les acquis que ceux qui sont en train d'arriver peuvent prendre en compte?
Merci beaucoup, monsieur Guy Maté. Et nous devons circonscrire l'avènement de son Excellence Théo Ngouabidji Kassi à la tête du gouvernement provincial du Sud Kivu. En effet, il y a eu la COVID-19 qui a paralysé tout l'appareillage économique de la province. Après, le gouverneur Théo Ngouabidji Kassi a fait face à une rafale d'émotions, en tout cas au total les 6 motions exprimées, sans prendre en compte des motions qui étaient étouffées dans l'œuf. Donc, pendant le mandat de Théo Ngouabidji Kassi, il y a eu des fortes turbulences politiques. Et si vous pouvez vous mettre à la place d'un gouverneur qui fait face à autant d'émotions, vous comprendriez avec nous que le temps pour s'occuper du développement de la province n'était pas vraiment au rendez-vous pour le gouverneur Théo Ngouabidji Kassi, qui devrait se battre pour sa survie politique. C'est qu'il y a, vous avez vu comment la législature s'est terminée au Sud Kivu, l'Assemblée provinciale est suspendue, et donc c'est des situations qui ne pouvaient pas permettre l'envol économique et dès lors le développement de la province du Sud Kivu. Comme vous avez voulu, Guy Maté, qu'on parle des acquis, je crois que le gouverneur Théo Ngouabidji, autant que faire se peut, il a essayé d'imprimer sa marque au Sud Kivu, parce qu'il avait pour le cheval de bataille les gouverner autrement. Les gouverner autrement implique aussi la transparence dans la gestion des affaires de l'État au niveau de la province. L'Assemblée provinciale a été contrôlée, l'exécutif, plusieurs fois. Nous avions également reçu la délégation de l'IGF plus de 3 fois. Et donc, de ce côté-là, il y a eu cette volonté à coopérer, à être transparent par rapport à la gestion de la res publica. Je voudrais vous dire une chose, et ça je porte à la connaissance des auditeurs de la radio Okapi. Le Sud Kivu, et ça c'est le message aussi pour les nouvelles autorités, nous avons la régie financière que nous appelons DPMR au Sud Kivu. C'est à peine que DPMR mobilise 1 million de dollars. Tenez-vous bien, M. Guimaté. L'enveloppe salariale, pour ne rien cacher aux auditeurs, du gouvernement et de tous les services connexes au gouvernement provincial, allusion faite ici à la division de l'intérieur, la division de la décentralisation, la division des affaires coutumières et d'autres divisions qui dépendent du gouvernement. Cette enveloppe s'évalue à 600 000 dollars. Vous générez 1 million de dollars. Vous devez payer le personnel avec une bagatelle de 600 000. Pour les 1 000, il vous reste, pour 1 million, il vous reste 400 000. Sans prendre en compte les frais de fonctionnement de ces institutions, mais aussi les fonds secrets de recherche qui obligent au gouvernement provincial d'appuyer l'armée, la police et tous les services de sécurité.
Et donc, on peut retenir que l'un des acquis de votre gouvernement, c'est la transparence dans la gestion.
Je suis en train de poursuivre. Nous sommes sur les acquis, Guy Maté.
Allons-y, on évolue.
Alors, parce qu'on doit parler des défis. Dans pareille constellation, la seule bonne volonté ne suffit pas. Vous savez, Guy Maté, que la Constitution prévoit la retenue de 40% à la source, ce qui n'a jamais été fait. On se contente de rétrocéder, et ici, comme hier, nous lançons ce message-là au nouveau gouvernement central. Nous ne pouvons pas mobiliser autant d'argent, nous, provinces, pour qu'on nous rétrocède ce qu'on veut et quand on veut. C'est incroyable. Avec quoi les gouvernements provinciaux vont-ils matérialiser leur programme d'action s'ils n'accèdent pas aux moyens?
Voilà. Après cela, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut maintenant parler des défis qui attendent les nouvelles autorités qui ont été élues récemment? À votre avis, quels sont ces défis-là? On parle dans cette ville de la desserte en eau potable qui pose problème, on parle de la desserte en électricité qui pose problème, on parle des infrastructures routières, et on parle de l'insécurité, on parle de la situation socio-économique. Et à votre avis, c'est quoi? Quelles sont les priorités sur lesquelles doivent se pencher les nouvelles autorités qui ont été élues?
Merci beaucoup, Guy Maté. Le plus grand défi, d'abord, c'est la sécurité, méfiez-vous. Sans sécurité, on ne peut rien. Si on peut parler développement, on peut parler progrès, il faut que ces avancées-là se fassent dans un environnement sain. Or, le Sud Kivu est pendant longtemps en proie à l'insécurité grandissante. Vous avez hier parlé du désengagement de la MONUSCO, qui est un autre défi. Nous avons ici des groupes armés étrangers et des groupes armés nationaux ayant chacun son mobile. Donc les raisons pour lesquelles ces groupes-là prennent les armes sont diverses. Vous n'allez pas penser que les groupes armés étrangers ont les mêmes mobiles que les groupes armés nationaux. Heureusement pour nous, le chef de l'État a lancé un appel et vous êtes en train de voir comment ces groupes répondent présents à l'appel du chef de l'État. Certains de ces groupes vont aller dans ce qu'on appelle la RAD. La RAD, c'est la réserve de la défense nationale. C'est-à-dire beaucoup de pays ont des réservistes. En cas de besoin, on peut toujours faire recours à ces réservistes-là qui sont des paramilitaires pour sauver les pays. D'autres qui n'accepteront pas de rejoindre la RAD, ils ont la porte ouverte vers la démobilisation par l'organisation PDDRSS qui va les démobiliser et les réintégrer dans la vie civile. Le départ de la MONUSCO, je dois vous dire sincèrement que nous saluons les efforts de la MONUSCO parce qu'on n'avait plus de pays en 1998, en 2000 ans, c'était rien, le pays était émietté, le pays était éclaté, c'est grâce aux efforts des amis, par la communauté internationale, par les biais de la MONUSCO, que nous pouvons parler quatrième législature aujourd'hui en République démocratique.
Justement, la population qui est là voudrait savoir comment vous allez affronter ces défis sécuritaires sans la présence de ces partenaires qui était la MONUSCO, qui vous a, n'est-ce pas, appuyé pendant plus de 20 ans.
Oui.
Comment vous envisagez gérer ou affronter ces défis sécuritaires?
Monsieur Guy Maté, la MONUSCO a été ici sur la demande souveraine de la République démocratique du Congo. Et chaque mission a un début et a une fin. 20 ans après, il était quand même normal que nous-mêmes, nous puissions tenter aussi de nous relever et de marcher par nous-mêmes. Quand vous avez un ami qui vous soutient, le jour où cet ami ne sera pas là, vous serez obligé de faire ce que vous faisiez quand il était là et ce que vous ne faisiez pas quand lui était là, ce qu'il faisait quand lui était là. Donc aujourd'hui, nous sommes très bien préparés, Monsieur Guy Maté. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grande délégation de partenaires qui est arrivée au Sud Kivu. J'ai le privilège de présider un groupe de travail qui traite de la question sécuritaire et protection civile dans le groupe de travail. Donc, la République démocratique du Congo est préparée pour que le départ de la MONUSCO ne soit pas une hécatombe ou une débâcle, quoi. Même quand la MONUSCO était là, l'État congolais n'avait pas démissionné. La MONUSCO ne faisait pas tout. C'est vrai, nous allons regretter le vide que le départ de la MONUSCO va créer. Vous n'êtes pas sans savoir, Guy Maté, qu'il y eut un temps où les installations de la MONUSCO constituaient les refuges, les lieux de refuge pour certains politiques qui se voyaient en insécurité, certains journalistes, certains défenseurs des droits de l'homme, le transport aussi, MOPI à gauche, à droite, et tout ça, ça va nous manquer. On a parlé également du budget de la MONUSCO qui s'élevait à 1 million de dollars par jour. Nous, on ne sera pas à mesure de faire ça, mais est-il que nous allons nous frotter les sourcils pour que le départ de la MONUSCO s'efface tranquillement et que les populations congolaises ne puissent pas regretter ce départ-là.
Monsieur le ministre,
oui.
Quand vous arrivez dans la ville, ce qui vous frappe d'abord, c'est l'état des infrastructures routières.
Oui.
Vous n'avez pas de route dans cette ville, vous n'avez pas de route dans cette province. Or, on ne sait pas concevoir développement sans route. Vous avez évoqué la difficulté que vous avez pour mobiliser les fonds, les ressources financières.
Oui.
Or, pour n'est-ce pas, financer la construction, la réhabilitation des routes, il faut avoir des ressources.
Tout à fait.
Comment vous allez affronter tous ces défis-là, hein? Comment vous allez mobiliser ces ressources? Comment vous allez construire ces routes-là? Voilà, tout ça, c'est des défis sur lesquels on vous attend.
Guy Maté,
on attend les nouvelles autorités.
Guy Maté, l'architecture institutionnelle de la Troisième République fait des échelons des responsabilités. Il y a des responsabilités relevantes du pouvoir central, il y a des responsabilités qui relèvent de la province. Les grands travaux pour un État, ce sont là les routes, les infrastructures routières. C'est des travaux qui coûtent énormément cher aux États. Et donc, quand je vous ai parlé de la mobilisation d'un million de dollars, je ne pense pas qu'avec une aussi faible mobilisation, on pourra faire face aux infrastructures routières auxquelles vous faites allusion. C'est ici où je voudrais demander aux députés nationaux élus de la province du Sud Kivu, aux sénateurs, d'exercer une pression au pouvoir central. C'est pas possible parce que l'autre fois nous avions calculé, si nous retenions 40% à la source, Monsieur Guy Maté, ça nous amènerait à au moins 5 millions de dollars. La décentralisation, c'est ce transfert-là de pouvoir, de charges, mais aussi de moyens. Mais la tendance pour le Congo, c'est de transférer uniquement les charges, mais les moyens ne suivent pas.
Et donc,
pourquoi on peut nous rétrocéder 200 000 dollars
une façon pour vous
le
de
mois.
Dire que, étant donné qu'il n'y a pas assez de ressources financières, vous ne serez pas en mesure d'affronter ces défis.
Mais la seule et simple volonté ne suffira pas. N'ayons pas peur des mots, Monsieur Guy Maté. Nous aurions bien voulu qu'on ait des routes bitumées ici. Nous aurions bien voulu. Quel est le dirigeant qui n'aimerait pas quitter ici au volant de sa Jeep, de sa voiture, jusqu'à Chabunda, chez moi, jusqu'à Fizi? pour des itinérances. Mais lorsque les moyens ne suivent pas, je vais vous décevoir, Guy Maté. Il arrive qu'on rétrocède par an, trois fois. Trois rétrocessions par an. Et à combien on rétrocède combien?
Monsieur le ministre, vous semblez, être pessimiste.
Qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
Vous semblez être pessimiste.
Donc,
est-ce que,
nous interpellons les nouveaux gouvernements.
Est-ce que vous, la population qui est là, est-ce que vous vous rassurez à cette population-là que les défis qui se trouvent devant vous, vous allez les affronter comme
il se doit? Merci beaucoup. Je voudrais rassurer la population que ce n'est pas une fatalité, Monsieur Guy Maté. Si les autres ont réussi, le Sud qui vous peut aussi réussir ou doit réussir. Vous savez, la circulation des élites, c'est aussi ça. Ça permet à ce qu'une nouvelle élite arrive aux manettes et marque de son empreinte son passage aux manettes. Donc, avec les nouvelles autorités, nous pensons, et quand ils ont été à l'Assemblée provinciale pour présenter leur programme par rapport à leur discours campagne, ils y sont revenus. Le Sud qui vous a beaucoup de potentialités. C'est question de responsabiliser les gens, les acteurs, à tous les échelons. Que les députés ressortissants du Sud Kivu jouent leur partition, que les gouverneurs et les gouvernements provinciaux jouent également leur partition. Vous avez parlé de la déstabilisation des institutions, mais c'est Guy Maté. On ne peut pas évoluer tant qu'il n'y aura pas stabilité entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, qui est l'émanation de la première institution en province qui est l'Assemblée provinciale.
C'est justement un autre défi, n'est-ce pas? Celui d'assurer la cohabitation pacifique des personnalités politiques.
Tout à fait. Et ça part de notre système électoral. Lorsque nous avons autant de forces politiques au sein d'une Assemblée, on recourt à des coalitions fragiles, des coalitions qui sont fragiles. Si bien que l'exécutif, plutôt que de s'occuper du développement de l'entité, il va pouvoir veiller à ce que cette coalition-là, sur laquelle il s'assoit, ne puisse pas éclater. Parce que si la coalition éclate, le gouvernement tombe avec la dislocation de la coalition. Et donc, ce sont là les jalons, les bases qui doivent être posées pour le développement de cette province.
Merci. Monsieur Samy Jean Takimboula, vice-président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu. Comme nous l'avons dit, la province du Sud Kivu a un nouveau gouverneur et un nouveau vice-gouverneur. Et qu'est-ce que vous, de la société civile, vous attendez de ces nouvelles autorités?
Merci beaucoup, Monsieur Guy Maté. Nous devrons repartir d'abord par rapport à quelques acquis dont le ministre a dit. Et là, essayer de tromper la population circoussienne.
Tromper? Ce n'est pas trop fort, ça?
Trop fort. Parce que nous ne sommes pas deep jusqu'à ce niveau-là. La population a vécu un bon gouverneur qui a bien géré, parce qu'on dit qu'il a gouverné autrement. Franchement, il a bâti record pour la gestion de cette province. Il a bâti record dans tous les sens. Entre autres, on peut même demander, si on donnait l'espace à tous les auditeurs de la radio Capi, de leur donner l'espace de s'exprimer. Si on faisait même les vox pop à toute la population sud-kivusienne, ça fâche si c'est le ministre provincial qui dit que son gouvernement, leur gouvernement, a eu de bons acquis. Dans tous les secteurs...
Il a insisté sur la transparence dans la gestion.
C'est là où je vais m'attarder, M. Guy Maté. Si on parle de la transparence de la gestion, c'est ce que j'ai dit. C'est gouverner toujours autrement. Quand quelqu'un il nous a amené les PPPP dans la province pour appauvrir notre province, donc là c'est positif. On applaudit bien parce qu'il a approuvé bien la province d'ici Kivu. Il a enfoncé cette province, le gouvernement Ngwabidje.
Évidemment, l'objet de l'émission aujourd'hui n'est pas celui de faire les procès ou les bilans du gouvernement Ngwabidje, mais c'est celui de parler des défis qui attendent les nouvelles
bien
autorités.
Bien sûr, on ne peut pas aller vers le nouveau gouvernement qui n'est pas encore installé sans pour autant évoquer tous les défis qu'on a vus avec l'ancien gouvernement de Théo Ngwabidje. C'est par là qu'on peut ressortir, on dira non, ici nous attendons ceci et cela par rapport au nouveau gouvernement. C'est pourquoi je m'attaque beaucoup avec les discours de notre ministre provincial, le porte-parole du gouvernement. Il représente bien son gouvernement sortant. Et il a bâti record encore, monsieur le gouverneur Ngwabidje, par rapport à une philosophie
divisée pour régner. En regardant bien, toutes les institutions étaient en instabilité en province, entre autres l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale était non fonctionnelle pendant plus de 2 ans ici, pendant qu'elle devrait collaborer avec cette institution pour bien gérer la province. Si on regarde
bien. Et donc, vous attendez de la part des nouvelles autorités cette
stabilité,
bonne
collaboration
entre les institutions provinciales.
Bien sûr.
Quels sont les autres défis?
Le ministre, il a parlé des infrastructures routières. Mm-hmm. Il a dit qu'il manque les moyens. Alors qu'il y a, nous sommes dans la décentralisation. La province a ses moyens propres à lui pour qu'il puisse réhabiliter les routes provinciales, les routes des dessertes agricoles. Qu'il nous dise quelle est cette route, qu'il nous cite seulement une seule route de la province à intérêt provincial dont le gouvernement provincial a réhabilité ici. Toutes les entités territoriales sont coupées avec le chef-lieu de la province. Si on se réfère bien, la route qui va vers Bunyakiri, on n'en parle même pas. La route qui va vers Chabunda, on n'en parle pas. La route qui va vers Fizi. Donc c'est toutes les routes qui sont à délabrement très avancé.
Voilà, vous êtes de la société civile, hein? Vous l'avez suivi, les porte-parole du gouvernement, qui a évoqué les difficultés, n'est-ce pas, des mobilisations des ressources financières.
C'est un faux fuyard.
Mais vous, en tant que société civile,
c'est un faux
fuyard. Qu'est-ce que vous allez proposer, qu'est-ce que vous allez préconiser, n'est-ce pas, à l'endroit des...
On va arriver à cela, on ne pourrait pas...
Pour qu'ils arrivent à mobiliser effectivement les recettes qui vont leur permettre de construire les routes.
Nous attendons au nouveau gouvernement provincial, entre autres, la première des choses, si la province veut décoller convenablement, c'est les infrastructures routières. C'est la première des choses. Les infrastructures routières, si nous avons nos routes dans la province, personne ne peut rester à Bukavu en train de circuler d'ici et là, sans travail, sans occupation. Il va se connecter avec peut-être son territoire pour chercher... quoi manger, quoi vivre, quoi vêtir ses enfants et ses familiers. Et la deuxième des choses, nous attendons à ce nouveau gouvernement la collaboration entre les institutions provinciales et même la société civile, parce que c'est un défi. Nous, on a passé plus de 3 ans sans collaborer avec les gouvernements sortants. Nous attendons à ce nouveau gouvernement, si bien même il peut être attentif aux besoins de la population. Aussi, nous attendons à ce nouveau gouvernement de s'intéresser beaucoup plus à la situation sécuritaire du pays, de la province. Si nous regardons très bien, il n'y a pas si longtemps, vous avez vu, il y avait les enlèvements, entre autres dans la plaine de la Ruzizi, on a enlevé les DG. Il n'y a pas si longtemps, vous avez entendu les problèmes vers Bunyakiri, des Wazalendo, les fameux Wazalendo. Donc, nous aimerions assez qu'il y ait un peu de clarification à cette manière de gérer la sécurité de notre province. Nous aimerions voir les infrastructures sociales de base soient un peu équilibrées au niveau de la province, parce que nous voyons c'est partout là, les écoles, les infrastructures sanitaires, donc rien n'avance. Avec le budget provincial, nous aimerions assez que notre gouverneur, son excellence, monsieur Jean-Jacques Kouroussi, qui puisse, comme il était, il fit un enseignant. Nous aimerions lui aussi qu'il puisse gérer maintenant convenablement la province. Et à cela, nous allons l'accompagner pour que notre province décolle dans le bon sens.
Merci. Merci, monsieur l'abbé Justin Kounzi, directeur de la commission diocésaine justice et paix CDJP de l'archidiocèse de Bukavu. Pour vous, quelles devraient être les priorités pour ces nouvelles autorités qui viennent d'être élues?
Merci beaucoup, Guy Maté. Je m'inscris aussi dans la même ligne que les collègues, les co-débatteurs ici, qui ont essayé de lister ce défi-là, la cohabitation professionnelle entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Je n'y reviens pas. L'enclavement de la province, qui est un grand défi parce que la mobilité est un facteur de développement et surtout aussi un facteur de sécurité. Quand on ne sait pas se mouvoir, c'est un sérieux problème. La ville est coupée de tous les territoires. Même les communes ne sont plus connectées parce que la route n'est pas là. Donc ça, c'est un grand défi. Il y a aussi le défi de la sécurité dont les collègues ont parlé. Mais j'ajoute à ces défis-là 4 autres. Le premier que j'ajoute, c'est... la prise en otage politique de la province par les autorités que nous appelons morales. ces autorités habitent, semble-t-il, à Kinshasa, et souhaiteraient que la province soit gérée par des commissionnaires, des gens qui répondent au téléphone, qui transmettent de l'argent ou qui reçoivent des ordres. J'aimerais que les collègues professeurs, pour aussi le gouverneur actuel, puissent vraiment avoir le courage de s'émanciper de ces autorités morales et de leurs coups de téléphone qui parfois peuvent déranger son travail.
Et donc là, vous révélez le fait que la province est aussi dirigée à partir de Kinshasa par ces différentes autorités morales.
Quand vous parlez comme ça, vous faites parfaitement bien comprendre ici en province. Un deuxième défi que j'ajoute à ceux des autres, c'est qu'il n'y a pas que les physiques qui tuent dans cette province. Il y a les boissons fortement alcoolisées qui tuent surtout les jeunes et les rendent incapables de travailler. Guy Maté, tu viens de Kinshasa, si tu arrives ici, tu trouveras que les hommes capables de travailler ne sont plus dans la rue ici. Hein. On importe une main-d'œuvre dans ces eaux parce qu'il y a des boissons fortement alcoolisées qui sont simplement fabriquées pour nous ici. Et ces boissons payent les taxes aux hommes en cravate et en béret, et il faudrait vraiment que cette hémorragie cesse. Un autre défi, et non le moindre, j'aimerais qu'on puisse donner un cours de géographie aux nouveaux élus qui viennent. La province ne se limite pas simplement à la ville de Bukavu. Parce que parfois on a tendance à croire que quand on a fait le tour de trois communes, on a été dans la province Sud-Kivu. La province, elle est vaste, et tous les fils et filles de cette province ont droit de bénéficier des autorités dans leur assistance en accomplissant des fonctions légales. Et notre défi, qui n'est pas le moindre, c'est la corruption à ciel ouvert. Tu viens de Kinshasa, arrive ici, mets-toi sur la route. Les gens sont là, on dirait une mentalité de la cueillette, tout le monde prend de l'argent. Sans vous remettre une taxe, vous donnez 10, on vous donne une taxe de 2 ou même pas. Et c'est vrai que c'est dans tous les pays comme ça. Cette corruption à ciel ouvert fait la honte de nos structures et nos institutions. Il faudrait que le nouveau gouverneur qui a dit que c'est un technocrate, un professeur, puisse vraiment avoir le courage de faire cesser ces pratiques.
Voilà, on sent qu'il y a une panoplie de défis.
J'arrive, j'ai fini par l'avant-dernier.
Oui.
C'est la balkanisation économique de la province.
Balkanisation économique.
Parce que tout le monde appelle la balkanisation politique, mais la balkanisation économique. Il y a une nouvelle élite étrangère venue de Nsezou qui va jusqu'à vendre du pain, de l'eau, des beignets. Est-ce que des étrangers peuvent...
Le petit commerce.
Le petit commerce. Évidemment, on va dire qu'il y a des coalitions, comme j'ai entendu le ministre Aïe le dire, les coalitions. Mais devant les défis communs d'une province, qu'on soit de gauche ou de droite, qu'on soit de la majorité ou pas, tous les fils de cette province devraient mutualiser leurs efforts et non passer le temps à se battre. Et avec les nouveaux élus, les nouveaux députés, nous aurons un langage très fort. Parce qu'on a appris, nous n'avons pas de preuves, nous n'avons pas les moyens de faire les recherches, que tous ont monnayé le fait de nommer tel gouverneur, de nommer tel sénateur. Ils monnayaient ça à ciel ouvert. Des élus qui monnayent, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces élus-là? Il faudra vraiment que nous soyons très sincères. Et si nous écoutent tous les corrupteurs et tous les corrompus, nous serons très sévères envers eux. Mais comme Église, donc je voudrais tendre la main à eux en disant que nous n'allons pas jeter l'eau et les bébés dans la poubelle. Nous allons quand même essayer, s'ils veulent, de leur prodiguer quelques conseils. Nous avons une aumônerie du politique que nous développons dans la province. On peut les accompagner, on peut les encourager, mais vraiment que les antimalheurs cessent et qu'ils puissent avoir pitié de leurs frères et de leurs sœurs qui les ont élus quand même.
Voilà, lorsque vous voyez tous ces problèmes auxquels ces nouvelles autorités vont faire face, est-ce que vous pensez que ces nouvelles autorités ont assez de marge de manœuvre pour solutionner ces problèmes-là? Déjà, le porte-parole du gouvernement a évoqué la difficulté qu'il y a dans cette province de pouvoir mobiliser les ressources financières. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont en train de venir auront beaucoup plus de marge de manœuvre pour essayer de relever les défis.
Je crois que pour manger un éléphant, il faut le couper en petits morceaux. Les défis sont immenses. Et les hommes intelligents pensent 1000 idées, mais réalisent une ou deux. Le nouveau gouverneur et son équipe, en collaboration avec les parlements provinciaux, doivent lister 2 ou 3 priorités et accepter qu'il soit redevable, qu'il vienne devant le peuple chaque 50 jours ou chaque 100 jours pour dire ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas des dieux, mais comment ils essaient de faire quelque chose.
Merci beaucoup. Est-ce que Bukavu est là? Bukavu est là? Voilà. Vous avez suivi les débats ici et nous voulons vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des observations, des questions, des préoccupations? On donne la parole à qui?
Bien, merci beaucoup. Nous tenons à commencer par remercier l'équipe de la Radio Capi pour la réalisation de cette activité à partir de la salle Concordia de la ville de Bukavu. Nous remercions également les interventions des participants. Je suis Lokele Tango. Je suis professeur de sciences politiques à l'Université officielle de Bukavu, spécialiste des questions de décentralisation et gouvernance locale. J'ai suivi et je commence par faire un petit ajout par rapport aux défis. Vous avez très bien listé les défis, mais il faudra alors que l'on parle de ces défis politiques. Ils ne se limiteraient pas seulement à la cohabitation entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Il faut aussi que l'on parle, et cela sans hypocrisie, de cette cohabitation entre le gouverneur et le vice-gouverneur. Parce que cela n'est pas pensé dès le début de leur gouvernance, et voilà, ils ne feront rien. Ils perdront tout le temps en train de se chamailler entre eux, et comme chacun d'entre eux vient d'un camp politique bien identifié et a des autorités morales auxquelles il fait rapport, et là, cela risque de bloquer leur gouvernance. Parlons aussi de cette peur, cette crainte, cette réserve que nous émettons, le fait de voir que les nouvelles autorités qui viennent risquent de vivre une opposition au sein de la même famille politique, Union Sacrée. Les élections se sont déroulées dans un contexte où l'Union Sacrée s'est bâtie contre l'Union Sacrée. Donc en province du Sud Kivu ici, l'Union Sacrée a vaincu l'Union Sacrée. Je comprends et je sais bien que le participant à cette émission me suive. Il faudra qu'ils se mettent et ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de cultiver, de développer en face d'une opposition au sein de l'Union Sacrée. Cela dépendra de la manière dont ils se prendront envers leurs partenaires politiques de l'Union Sacrée. Il y a également le défi du patrimoine de l'État et de la province. Ils ont semblé oublier cela, mais nous sommes dans une province qui n'a presque plus rien. Le ministère provincial sont locataires, alors que la province tente à tout vendre, tout ce qui restait comme bien de l'État. Et voilà, je ne sais pas si nous nous remettons sur ce plan là-bas, qu'est-ce que nous avons encore à sauvegarder au niveau de la province de Sud Kivu. Le défi étant énorme, je pose une petite question. Une petite question à Monsieur le ministre qui représente l'exécutif provincial en fonction jusqu'ici. En fonction, au regard de des acquis dont il est passé en revue ici, auquel il a fait allusion ici, quel est le défi qu'il pense, quel est l'acquis qu'il pense à partir duquel le prochain gouvernement provincial peut partir pour bien asseoir leur gouvernance, parce que moi, personnellement, je n'en vois pas. Merci.
Bonsoir à la Radio Capi. Je suis Mouloubi Wenga Joseph, étudiant en deuxième année de licence à l'IOB, faculté de droit. Je remercie la Radio Capi pour cette opportunité de nous donner le temps de nous exprimer en tant que population de Sud Kivu. Premièrement, nous avons un sérieux problème dans notre province Sud Kivu, et ce problème est dû à une mauvaise gouvernance de nos dirigeants. Parce que depuis les élections de 2018, nous avons assisté à une mise en scène entre l'Assemblée provinciale, qui est la première institution au niveau provincial, et le gouvernement provincial. En suivant le monsieur le ministre et le porte-parole du gouvernement, il a tenté de soutenir tout ce qu'ils ont fait pendant 5 ans, et sur le terrain, on n'a rien vu sur le plan du développement et sur le plan même de la collaboration entre les institutions installées à province et la population, y compris aussi la société civile. Alors, je m'adresse à monsieur le ministre. Vous avez dit que les problèmes sérieux qui guettent la province seraient tenus à la source des 40%. Alors, quels sont le mécanisme que vous envisagez pour le nouveau gouvernement qui va entrer en vigueur pour que la province ne puisse pas connaître le même problème que vous avez connu? Merci beaucoup.
Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Je suis Moussafir Balungu Olivier. Je suis chargé des opérations dans une société commerciale dans la ville de Bukavu. Je viens pour le compte de l'AFEC et j'ai besoin d'intervenir un peu par rapport au débat qui vient de se passer entre une partie du gouvernement, M. Chipson Idumbo, et la société civile. J'ai suivi aussi l'abbé par rapport aux défis qu'ils ont relevés. Je pense qu'il y a aussi des défis économiques. Les défis économiques, c'est par rapport, monsieur le journaliste, aux taxes qui sont payées de façon désordonnée, sans respect des textes dans la province du Sud-Kivu. Le gouvernement qui va commencer, nous voudrions qu'il change le rythme. Parce que nous avons suivi M. Chipson Idumbo, il a bien soutenu la façon dont ils ont géré la province pendant un temps. Oui, honnêtement, nous reconnaissons les instabilités politiques dont son gouvernement était victime de la part de l'Assemblée provinciale et même des soi-disant autorités morales au niveau national. Mais carrément, il doit reconnaître qu'ils n'ont pas bien servi la province. Le défi économique. Vous voyez des taxes exorbitantes, des agents de la province qui circulent ici et là, récolter les taxes de la DPMR. Mais ces taxes-là ne servent à rien. L'abbé a parlé de la corruption. Dans la perception des taxes, le nouveau gouvernement devrait lutter contre la corruption. Les under table. Les gens veulent discuter autour des taxes qu'ils veulent percevoir. Et il faudrait qu'il éduque à tout son arsenal avec lequel il va travailler. Parce que c'est ça qui plonge la province dans les difficultés. Il a parlé des problèmes de recettes. Il a donné un exemple, je ne sais pas si c'était un exemple ou c'est ce qui est réel. Il a dit que la province mobilise $1 million. Mais l'enveloppe salariale des agents de la DPMR prend 600 000 dollars. Je ne sais pas, tous les gestionnaires, est-ce que vous pouvez vous imaginer une entreprise mobilise $1 million, mais elle affecte 600 000 dollars dans seulement l'enveloppe salariale, connaissant qu'il y a d'autres dépenses connexes qu'elle va effectuer. Moi, je pense, ça c'est une mauvaise façon de voir les choses. Ce que nous pouvons demander au gouvernement qui sera bientôt installé. Moi, je suis dans le secteur minier. Nous savons combien nous contribuons. Nous savons. Il y a la redevance minière que nous contribuons
pour la province du Sud-Kivu. Le code minier prévoit 25% de la redevance minière, de la valeur FOB, parce que le code a prévu la redevance qu'il faut payer. Mais nous, on se demande à quoi sert cet argent. Merci beaucoup.
Donc on va commencer par répondre à cette première série de questions. Monsieur le ministre Tipson Idumbo, beaucoup de questions qui vous sont adressées. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, Guy Maté. Je remercie tous les compatriotes qui ont posé des questions. Au professeur, je dirais qu'il y a des efforts à conjuguer pour que le gouverneur et son vice soient en phase. C'est vrai, ça a été toujours un problème. Très souvent, les vices considèrent que, bon, les titulaires ne l'associent pas comme il aurait voulu, et les problèmes partent de là. Peut-être que vous avez déjà été vice dans une organisation. Très souvent, les vices sont aigris. Et ça, c'est au vu de pouvoir qu'on leur donne. Et nous avons aussi soulevé cette lacune-là, textuelle, parce que, bon, aucun texte ne donne clairement les attributions au vice-gouverneur. Il en est de même pour les bourgmestres adjoints et les maires adjoints. Nous avons géré beaucoup de problèmes comme ça entre les bourgmestres et leurs adjoints. Donc, il y a des efforts, je suis vraiment d'accord avec vous, à conjuguer de ce côté-là.
Le patrimoine public.
Oui, j'y réponds.
Il a insinué
la guerre, l'opposition au sein de l'Union sacrée. Évidemment.
Est-ce qu'il a tort?
Je ne dis pas qu'il a tort. On a vu l'INC, n'ayons pas peur de mots, il faut citer les organisations publiques, l'INC, qui a amené son candidat gouverneur jusqu'au bout, et une autre liste qui comportait les actuelles autorités. C'est ça la crainte. Mais je sais qu'au sein de la famille politique qui est l'Union sacrée, on est en train de trouver un mécanisme. On n'aimerait pas vraiment que l'UNC soit en opposition avec d'autres partis, alors que tous appartiennent à l'Union sacrée.
Voilà, le patrimoine national.
Patrimoine, monsieur Guy Maté. Nous recevons des PPP ici qui ne sont pas signés par les gouverneurs. La province ne constitue pas un État à part. Nous appartenons à la République démocratique du Congo. Je le disais tantôt.
Donc ça va au-delà de la province.
Quand un ministre national de l'urbanisme et habitat signe un PPP, quelqu'un arrive ici, il le signe et conformément aux attributions qui lui sont reconnues. Nous, on fait quoi?
C'est pourquoi nous demandons... C'est un problème qui relève du ministère de l'urbanisme.
Oui, c'est pas les gouverneurs. C'est pas les gouverneurs. Et donc, nous demandons à l'Assemblée provinciale, d'ailleurs j'ai suivi il y a 3 jours, que des commissions spéciales ont été constituées à l'Assemblée provinciale pour, entre autres, examiner le dossier de patrimoine de l'État au Sud Kivu.
Alors, l'acquis du gouvernement sortant qui doivent être pris en compte par ceux qui sont en train de venir.
Beaucoup d'acquis, monsieur.
Allons rapidement parce que nous plaît.
Et en dépit des difficultés face auxquelles l'exécutif est sous le leadership de Teongwa Bidje s'est retrouvé, mais il y a des acquis que nous pouvons noter. Il y a peu, un taxi n'arrivait pas à Ngouba. Nous vivons tous ici. Les taxis s'arrêtaient à la place Moulamba. Mais c'est ça, nous avons vécu ça ici, non? Mais le gouverneur Teongwa Bidje, c'est vrai, on peut dire que c'est rien.
Mais vous savez, nous qui n'habitons pas cette ville, hein, lorsqu'on est arrivé, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a une route qui a été...
Qui quitte la place Moulamba jusqu'à la frontière? Qui a construit cette route? Qui l'a construite?
Voilà, donc
nous,
ça c'est... Ça
reconnaissons c'est quand même ce qui a été fait.
Un des acquis.
Vous savez, M. Guy Maté, le tronçon qui quitte Ruzizi 2 jusqu'à la place Major Vango. 3 gouverneurs se sont succédés sans que ce tronçon-là ne s'achève. Qui a achevé le tronçon? Il y a eu des travaux, c'est vrai, on n'a pas asphalté. À un certain moment, on ne savait plus arriver à Mwenga. Il y a des travaux qui ont été faits, des travaux sommaires, oui, mais des travaux quand même. On ne peut pas vivre au-dessus de ces moyens. Je vous ai parlé de la mobilisation ici, qui est très souvent maigre. Voilà un peu ce que je peux dire
oui, mais
par rapport aux acquis.
Est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui sont en train de venir pour qu'ils soient en mesure de mobiliser les recettes?
Les conseils sont clairs parce que nous pouvons nous targuer aujourd'hui l'expérience dans ce domaine-là. Ils sont nombreux qui parlent et qui critiquent, mais qu'on n'a jamais vu à l'œuvre. Au moins, nous avons été là, nous avons compris par où ça bloque, et bon, les difficultés qui font que la province ne décolle
pas. Ça bloque où?
Les conseils qu'il faut donner, dès que le nouveau gouverneur et son vice seront là, en plus des aspects sécuritaires que nous partageons avec le gouvernement central, bien sûr, il faut réformer la DPMR. La DPMR doit être réformée parce qu'on a compris que le mal aussi, c'est cette régie-là. Un directeur qui mobilise 1 million de dollars, il est au zénith. Alors qu'en réalité, ils peuvent faire plus que ça.
Merci.
Ça me renvoie à la question de l'opérateur économique ici.
Sur les taxes.
Les taxes, et puis bon, il a également parlé de quoi là? Redevance et tout ça. Nous sommes tous du Sud qui vaut. Cher Guy Maté, les gens ne payent pas de taxes ici. Et ça va être le problème pour l'autre gouvernement qui vient. Nous devons, s'il vous plaît, on ne vient pas faire la complaisance ici. On n'est pas dans l'auditoire à l'université. On vient parler des questions de la vie de notre pays et de notre province. On ne devrait pas être complaisant.
Et donc on ne paye pas, on paye pas.
Les gens n'ont pas la culture.
On ne paye pas, absolument, on ne paye pas les taxes. Est-ce qu'il y a pas...
Je ne peux pas dire absolument, voilà. Parce qu'il y en a qui s'acquittent quand même.
Voilà.
Mais ça, la plupart, les gens, ils ont parlé. Le peu
qu'on paye là, qu'est-ce qu'on en fait?
Vous savez que les gens préfèrent...
Qu'est-ce qu'on fait de ces pays-là?
Ils préfèrent corrompre les agents. Les gens préfèrent...
Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on fait de ces pays-là?
C'est
la préoccupation de la population.
J'en arrive, mais je venais de vous parler des réalisations ici. Quand on a 1 million de dollars, vous voulez réaliser 100 km de route asphaltée?
Merci.
C'est quoi?
Merci.
Nous devons être réalistes. Les gens préfèrent la fraude, les gens préfèrent corrompre les agents des services d'assiette plutôt que de verser l'argent dans les trésors publics. Ça fait la honte, la province du Sud Kivu, qui est maire de 2 autres provinces, qu'elle soit dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur Sami Jean Takimbula, membre de la société civile, on ne va pas revenir, n'est-ce pas, sur ce qui a été fait. Parlons des défis, n'est-ce pas? Les nouvelles autorités sont en train de venir. Qu'est-ce que vous, de la société civile, vous pouvez leur faire comme recommandation pour qu'ils soient en mesure de relever les défis? Peut-être qu'ils n'ont pas été relevés par ceux qui sont en train de partir.
Oui, bien sûr, tout ce que les auditeurs ont essayé de parler, c'est ce qu'on devrait transformer en recommandation. Parce que si on regarde bien, le ministre a dit que la population ne paie pas les taxes, et là, c'est se moquer avec cette population. Et c'est chaque jour qu'on fait des campagnes de civisme fiscal parce qu'on comprend que les autorités ne font que s'enrichir dans leur poche, dans leur famille, sans qu'ils puissent songer au développement, au décollage de notre province.
Voilà, donc si vous estimez qu'on paye les taxes, quelles doivent faire les nouvelles autorités par rapport à ces taxes-là? Ils doivent faire quoi avec ces taxes?
J'ai bien suivi quand M. Labbé avait dit, il a bien orienté, ils doivent prioriser les actions.
Okay.
Donc il doit avoir des priorités. La première priorité, je m'attarde toujours aux infrastructures routières, c'est la première des priorités en province. Okay. C'est ça la boussole du développement de notre province. Aussi, deuxièmement, nous aimerions à ce qu'on puisse s'attarder beaucoup plus par rapport aux spoliations de notre patrimoine. Le nouveau gouverneur qui va venir, vraiment, nous, la société civile, on va l'accompagner pour les démarches de ravir, parce que tout appartient à l'État. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Il n'y a pas une puissance plus que l'État. Donc nous aimerions à ce que l'État, le gouverneur, puisse avoir une campagne vraiment très forte de ravir toutes les maisons qui sont déjà construites avec ces fameux PPPP. Et nous aimerions vraiment qu'on ne puisse pas se voiler la face. Parce que c'est la province, c'est le gouverneur. Il y avait une commission de l'avocat général qui était venu ici à Bukavu. Il a fait les enquêtes. On a échangé avec lui. On a fait vraiment des séances de travail avec lui. On lui a tout dit. On a dit toutes les vérités. Donc, le gouvernement provincial a spolié toute la ville du Bukavu est là, on ne peut pas se cacher la vérité. Et nous aimerions que le nouveau gouvernement qui va venir puisse s'attarder à cette campagne dont nous recommandons.
Merci.
Et nous serons derrière eux chaque jour. On va identifier, parce que nous avions travaillé minutieusement, il y avait une commission de la société civile pour identifier toutes les maisons de l'État spoliées. Mmh. Et nous avons même eu à échanger avec les nouveaux gouverneurs que nous l'attendons à bras ouverts pour qu'on puisse former une équipe de toutes les parties prenantes, entre autres les ministères d'habitat, ministère de l'intérieur, bien sûr, dont le gouvernement provincial et la société civile. Là, on va vraiment ravir toutes les maisons. Et là, on ne fait pas fermer.
Merci, M. Samy.
Et troisièmement, par rapport à ce que le ministre a dit, nous avons constaté ici les arriérés dans tous les secteurs. Les cabinets de gouverneurs aujourd'hui, ils sont à 16 mois d'arriéré. Ils ne sont pas payés. S'il dit que les 1 million qu'ils reçoivent, ils paient les agents. Qui sont ces agents qui payent?
Merci.
Au gouvernement, au niveau de l'Assemblée, ils sont à 23 mois des arriérés. À la DPMR, ils sont à 16 mois des arriérés. Et toute la population voit comment est-ce que c'est chaque jour qu'il y a grève en grève. Donc c'est cet argent-là qu'on nous trompe, qui mobilise les 1 million de dollars, dont ils affectent 600 millions, l'enveloppe salariale. Donc c'est 600 000 dollars. C'est 600 000 dollars entre dans les poches des 10 membres du gouvernement qu'on peut conclure.
Merci. Monsieur l'abbé Justin Kounzi, comment vous voyez, n'est-ce pas, cette problématique du patrimoine, des spoliations du patrimoine de l'État? Vous avez suivi le ministre qui a semblé, n'est-ce pas, manifester une certaine impuissance, parce qu'il estime que c'est au-delà de la province, c'est plutôt le gouvernement national. Et si on laisse les choses évoluer ainsi, la province va perdre tout ce qu'elle a comme patrimoine ici. Vous qui êtes de la société civile, qu'est-ce que vous pouvez recommander à ceux qui sont en train d'arriver pour qu'on puisse protéger le patrimoine de l'État?
Monsieur Guy Mater, nous avons reçu dans cette même salle tous les candidats gouverneurs. Nous, comme membres de la société civile et leaders dans cette province. Et l'actuel gouverneur a dit ici devant nous tous qu'il est capable et il est prêt à démissionner s'il se trouve qu'il est vraiment littéralement bloqué. Je vous dirais deux choses. La première, même à mon ami Tipson, une autorité ne se lamente pas. Une autorité ne se plaint pas. Une autorité agit et décide. Si on commence à corrompre officiellement, et ce sont vos agents qu'on corrompt, vous agissez. Je pense qu'il faudra que l'actuel gouverneur prenne ses responsabilités et agisse de manière responsable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'aimerais que le nouveau gouverneur puisse élaborer un programme réaliste, un programme qui soit adopté par l'Assemblée provinciale, un programme que nous tous nous allons nous approprier à partir des territoires, en passant par les communes, en passant par la mairie, même par les rues, que nous puissions nous approprier ces programmes et que les autorités qui vont venir aient la culture de la redevabilité et la communication. Qu'ils viennent dire aux gens, à 6 mois de mon travail, nous avons mobilisé 20 francs. Nous avons fait ceci. À 8 mois de mon travail, nous avons mobilisé autant, nous vous avons fait ceci.
S'il y a une la transparence, comme l'a relevé le ministre Tipson Idumbo.
On peut être transparent sans être redevable et sans bien communiquer. Donc s'il y a une transparence et une communication, alors tout le monde peut être vraiment occupé à mobiliser davantage. Nous sommes prêts, nous tous, même à payer une taxe spéciale s'il faut pour cela améliorer la voirie urbaine, améliorer les routes de dessertes agricoles. Nous sommes prêts à vendre même les petites chèvres qui nous restent au village, à condition que nous voyons à quoi ça sert. Il n'y a que cette redevabilité et cette transparence, et je crois que c'est possible.
Mais, monsieur l'abbé Justin Kounzi, on dit que les malheurs de cette province du Sud-Kivu, c'est ses dirigeants, c'est les personnalités politiques qui s'acceptent difficilement. Et ça, c'est aussi un travail de vous, société civile, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'il y ait cohabitation qui est acceptation mutuelle, n'est-ce pas, entre les personnalités politiques dans cette province?
Moi, je crois que je ne vois pas toujours, moi, le verre à moitié vide. Je vois le verre un peu à moitié plein. Je crois qu'il y a une bonne volonté. Tout le monde a compris qu'il y a un problème. Quand nos dirigeants, là, et les fils de cette province arrivent simplement ici, une fois les cinq ans pour demander d'être votés, tout le monde a compris les limites de cette stratégie. Nous voulons quand même que ces fils se mettent ensemble autour d'une même table et puissent accompagner la personne qui est passée comme gouverneur. Nous pouvons être 100 candidats, mais une seule personne passe. Et nous acceptons d'accompagner la personne qui est passée pour le bien de la province.
Pour
l'intérêt général. Si nous sacrifions nos intérêts privés pour l'intérêt d'abord principal de la province, ça peut aller. Alors on va gérer nos grégaires entre nous. Mais le problème, c'est qu'il y a un esprit de pillage. Et parfois, on peut mettre même des personnes qui ne font pas à la place qu'il faut parce qu'on veut simplement caser les frères, les cousins, les nièces. Et il y a maintenant une grande pression. Et je crois, ce que j'ai dit, hein, l'actuel gouverneur doit avoir vraiment un grand gabarit, avoir le courage de nettoyer devant sa porte et d'assainir un peu son entourage. Et merci. Je crois que ça peut marcher. Et la fois prochaine, quand vous reviendrez ici, peut-être que la province aura un nouveau visage.
Merci, chers amis de Bukavu. Est-ce qu'il y a encore des préoccupations? Qu'on ne revienne pas sur ce qui a été déjà dit, hein?
Bonsoir Radio Kati, bonsoir chers auditeurs. Je suis Innocent Chubaka Chimanuka, le porte-parole des étudiants de l'ISPF Bukavu. Nous invitons au nouveau gouverneur qu'il ne nous mente pas qu'il n'y a pas mobilisation des recettes pour la province.
Bonsoir à la Radio Kati, bonsoir à tous les auditeurs. Je suis Kassami Virginie, étudiante à l'Université catholique de Bukavu. Ma préoccupation avant cela, j'ai été attentive aux interventions et ma question s'adresse au ministre. Eu égard à tout ce que vous avez eu à faire dans l'ancien gouvernement, vous avez eu à travailler avec le gouvernement sortant, les gouverneurs sortants, son Excellence Teungwa Bijekasi. Lors de son investiture, il a présenté un PAP, un programme d'action prioritaire, pour le compte de la province, qui a été exécuté à moitié, comme vous l'avez dit, faute aux motions de censure, la maladie à coronavirus et tous les autres problèmes auxquels il s'est heurté. Ma préoccupation est de savoir, pour le gouvernement entrant, quels sont les défis auxquels vous, qui avez eu à travailler avec l'ancien gouvernement, quels sont les défis auxquels le gouvernement présent va se heurter et comment vous comptez travailler avec eux pour contourner ces défis? Merci.
Oui, monsieur le ministre, une fois de plus, les questions vous sont adressées, hein, donc on sent que vous avez une grande responsabilité.
C'est bien normal.
Voilà.
Oui.
Allez-y.
Donc j'ai dit ceci, nous sommes d'accord
et puis vous allez conclure,
que les citoyens,
oui,
que les citoyens posent des questions aux dirigeants. Nous demandons que les organisations de la province du Sud Kivu accompagnent les nouveaux gouverneurs, notamment la société civile, toutes les fêtières de la société civile, parce que c'est aussi un problème. La société civile chez nous, c'est aussi une pesanteur. On aimerait profiter de l'accompagnement de cette société civile dans sa diversité pour permettre le décollage de notre province. Je disais encore tantôt qu'il n'y a pas de fatalité. Et M. Abbé Nkunzi l'a dit, nous devons mutualiser les efforts. Nous demandons une nette collaboration interinstitutionnelle. D'ailleurs, il y a un cadre au sein duquel les deux institutions peuvent se parler. Il y a des réunions interinstitutionnelles. Il ne faut pas attendre seulement des plénières, des motions, des interpellations. On peut dévancer un problème qu'on voit venir à travers le mécanisme qui ont été mis en place, notamment les réunions interinstitutionnelles. Et là, je réponds également à Madame
Virginie
Kassami, pour dire que le défi de mobilisation des recettes, c'est un grand défi. Sans moyens, la seule volonté ne suffit pas. Il y a également les défis sécuritaires auxquels nous sommes revenus plusieurs fois. En conclusion, nous disons ceci, que chacun devra jouer sa partition.
Oui, merci beaucoup. Samy Jean Takimbula, membre de la société civile, votre conclusion.
Oui, merci beaucoup. La première conclusion est que nous aimerions voir à ce nouveau gouvernement qui puisse travailler sur trois mécanismes. Le premier mécanisme qui met en place un guichet unique. C'est ce guichet unique qui va permettre à ce qu'il y ait une gestion transparente de toutes les recettes ici dans la province.
Guichet unique, oui.
Deuxièmement, nous aimerions à ce qu'il y ait cette collaboration fluide entre trois parties, le gouvernement, la société civile et l'Assemblée provinciale. Et troisièmement, nous rassurons la population que la société civile ne va pas croiser les bras parce que nous connaissons bien le contexte qui nous a affectés dans ces 5 ans passés. Nous allons faire le mieux possible et contrôler aussi d'être les contrepoids de ces pouvoirs.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé Justin Kounzi. Votre conclusion?
Ma conclusion, c'est en 2 petits points. Le premier, c'est que il y a un vent nouveau qui souffle sur toute l'Afrique, qui vient du Sahel et qui descend. Et on espère qu'il arrivera un peu plus en bas ici.
C'est quoi ce vent?
Un vent qui balaie tous les inutiles. Un vent qui
balaie. Il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit de quoi?
Un vent de changement positif. Un vent qui donne le pouvoir aux jeunes. Un vent qui souhaiterait quand même que l'Afrique soit africaine. Un vent qui veut que les choses changent positivement. Ce vent-là est positif. Nous devons nous en approprier. Première chose. Deuxième chose, c'est que nous, comme Église, nous sommes là pour accompagner les uns les autres. Les parlements provincial, l'exécutif provincial, les élus municipaux, ils peuvent bénéficier de notre travail au sein de l'aumônerie parlementaire parce que on n'a pas beaucoup parlé du chantier de l'éthique, mais c'est un chantier très important, auquel nous pouvons contribuer comme Église. Voilà, je vous remercie.
Merci à Monsieur l'abbé Justin Kounzi. Monsieur le ministre Tipson Idumbo et à Monsieur Samy Jean Takimbula qui ont accepté de participer à cette émission. Merci également à vous, habitants de Bukavu, filles et garçons, Beke, est-ce que vous pouvez applaudir? Merci aussi à Radio Kapi Bukavu, Jean Kassami, Alain Dikota, Emmanuel Kanagaro et toute l'équipe de Radio Kapi, en fait, Dialogue Congolais et Kinshasa, Donat Madimba, Jonathan Fonani, Dieudonné Nyangasa et aussi merci à Virginie et Kassami qui nous appuie, qui nous aide. Et à la présentation, c'était Guy Maté. Merci encore et bonne suite du programme sur Radio Kapi.